Bonjour et bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'eau à la bouche. Au sommaire de cette émission du mois de novembre 2012, un reportage de Valliamage à Montpellier sur la construction d'une maison en béton chanvre avec l'éco-entrepreneur Étienne Gentil. Pour tenter d'éviter l'électrocution des oiseaux et notamment l'aigle de Bonelli, ERDF, Électricité Réseau Distribution de France, finance la mise en sécurité des pylônes et lignes électriques. Reportage près de Clermont-Lérault, à Nébian. Et puis retour sur la journée d'échange régional au sujet de la prévention des déchets organisée par le réseau Graines du Languedoc-Roussillon. C'était à Saint-Jean-de-Védas fin octobre, un entretien avec Vincent Le Gall. L'eau à la bouche, une émission proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange avec ce mois-ci une nouvelle reporter, Valliamage. L'eau à la bouche, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Clapas, Divergence FM et Radio Larzac, musique à savourer tout au long de l'émission avec des extraits du dernier album d'Émilie Loiseau. Bienvenue à vous.
Il était un homme libre qui disait de tenir debout dans le vent. Comme elle est belle la lune s'élève, rejoindre la rumeur du printemps. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau. Je prendrai deux bouts de bois entre mes doigts, je les porterai en flambeau. Je réchaufferai la terre et créerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sur ta peau. C'est l'embout. Parle le chagrin des oiseaux. Quand l'hiver enneige nos plateaux. Comme elle est raide la côte, comme elle est haute, la cime de l'arbre dans le ciel blanc. Ta douleur est profonde quand la nuit tombe. Moi, je m'allongerai dedans. Je coucherai sous la terre, à l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront la mer. Il était un homme libre qui disait de tenir debout dans le sang. D'attraper la foi sauvage des sorciers, la rage pour tenir longtemps. Mon poème n'a pas de mots, il a le son du tonnerre et de son éclat sur la pierre. Vole le chagrin des oiseaux vers la ville. Thank you.
Dans un contexte socio-écologique plus que préoccupant, la notion de transition énergétique commence à prendre du sens dans les esprits. En s'étendant chaque année un peu plus dans les mentalités, ce concept s'impose dans les pratiques de certains entrepreneurs pour lesquels construire, c'est choisir. Et c'est notamment choisir ses matériaux. Écoutez cette mise en bouche de Valia Mage qui éveillera peut-être votre appétit pour le béton de chambre.
Quand on se promène à vélo dans les ruelles de Montpellier, on croise parfois des phénomènes étranges. Comme ici, rue Finot-Bricca, ça sent le foin. Et pour cause, car ici se construit une jolie bâtisse en béton de chanvre. Curiosité oblige, allons demander quelques explications à Étienne Gentil, l'éco-entrepreneur de cette maison de ville et de chanvre.
La construction dite en béton de chanvre, c'est une construction qui a une structure porteuse en ossature bois, comme un squelette, avec des bois de section le plus faible possible, structure dite plateforme, donc avec des membrures, entre autres en Douglas, qui sont de petites sections. Cette structure, elle est entièrement noyée dans un mélange de chaux et de chanvre. Le chanvre, c'est la chenevotte de chanvre, c'est-à-dire c'est le bois du chanvre, donc la tige.
C'est pas la feuille de cannabis.
Non, c'est une autre variété. La tige est défibrée et il reste le bois de la tige qui est la chenevotte, qui est coupée en façon menu paille. Et cette chenevotte est mélangée avec de la chaux avec une très large proportion de chaux aérienne. La chaux aérienne, c'est ce qu'on appelle la chaux naturelle, c'est-à-dire la chaux directement issue du calcaire.
Mais pourquoi diable utiliser du bois de chanvre dans un bâtiment ?
On ne peut pas séparer le chanvre et la chaux, qui ont par ailleurs individuellement des propriétés intéressantes. Mais ensemble, ils réalisent un complexe qui est un bon isolant, mais qui a deux propriétés fondamentales qui confèrent à la maison d'habitation un bien-être, très grand bien-être, et puis des propriétés bioclimatiques. Donc la première, c'est qu'elle est capable de... elle a de l'inertie, donc elle est capable d'emmagasiner de la chaleur ou de la fraîcheur. Ça, c'est une des propriétés. Et l'autre propriété, qui est probablement la propriété la plus importante, elle est capable d'absorber l'eau qui est dans l'air, ambiante, à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, sans moisir, et des quantités très importantes d'eau. Elle a un rôle de régulateur hygrométrique. Ça veut dire que vous allez avoir une maison dont l'hygrométrie sera relativement constante. Et il faut savoir que le confort dans une maison est essentiellement dû à l'hygrométrie. C'est-à-dire que si l'hygrométrie est bonne, on va avoir besoin de chauffer par exemple à 19 degrés. On va se sentir bien à 19 degrés. Alors que dans une maison où l'hygrométrie sera plus saturée, on va monter à 21-22 degrés. Et dans une salle de bain où il y a du béton de chanvre, eh ben, quand vous prenez une douche, eh ben, il n'y a pas de buée aux fenêtres ou sur le miroir. Il y a autre chose, c'est un matériau d'effusivité, très douce. L'effusivité, c'est la sensation au toucher qu'on a sur un matériau. Si vous touchez du carrelage, vous allez avoir la même température, plus froid que si vous touchez du bois. Et le béton de chanvre a cette douceur, en fait. Elle a un excellent pouvoir d'isolation phonique et elle est capable d'adoucir les sons. Donc c'est une maison où on n'aura aucune saturation de son et pas de rebondissement et elle est capable d'absorber une partie des ondes électromagnétiques. Donc aujourd'hui on est saturé de millions d'ondes et ben elle est capable de les absorber. C'est un procédé qui permet d'avoir une maison beaucoup moins énergivore que les maisons dites traditionnelles, c'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui à 90%. Maison aglo en aggloméré de ciment avec isolation polystyrène, laine de verre. Donc on aura une maison beaucoup moins énergivore, beaucoup plus réactive au vivant, ce qui est à mon sens essentiel. C'est pas une maison inerte, c'est une maison vivante qui réagit au vivant. Et le bilan écologique est exceptionnel, puisque vous avez trois matériaux prépondérants, le bois, le chanvre et la chaux aérienne. Le bois, quand il croît, absorbe du CO2. Le chanvre, quand il croît, absorbe du CO2. Et la chaux a un bilan quasi neutre, puisque quand elle est cuite dans les fours à chaux, le calcaire libère du CO2. Quand la chaux est mélangée à de l'eau, elle se calcifie, elle se carbonate, et elle absorbe rigoureusement le CO2 qu'elle a libéré. Le bilan est neutre.
bon, toutes ces compétences bioclimatiques du chanvre nous ont mis en appétit. Mais comment mettre en œuvre techniquement un mur, une maison, avec ce matériau?
Donc le mur est constitué uniquement d'un squelette en bois, massif, et noyé dans un mélange de chaux et de chanvre, c'est-à-dire que le coffrage extérieur en OSB a voué à disparaître. Il n'a rien à faire ici. Dans cette maison, il n'y a aucun OSB et aucun panneau préfabriqué. Le principe est le suivant, on va coffrer entièrement une des façades, donc je coffre intégralement l'extérieur de la maison, et à l'intérieur, je coffre tous les 50 cm. Je fais une bande de 50 cm, on déverse le mélange de chaux-chanvre, on le tasse contre les branches et autour des ossatures, et après on décoffre successivement. On peut décoffrer sur l'heure. D'accord. On coule, on tasse et on coffre. Il faut savoir que quand la chaux elle est branchée, on a le mur, mais on a l'isolant. Et en fait, en extérieur, on fait un enduit à la chaux. Et en intérieur, on fait un enduit de finition uniquement. C'est-à-dire quand on monte, quand on bâtit les maisons en aglo ou en briques, on bâtit et après il faut faire le doublage, et après il faut faire le placo, je sais quoi, et la peinture. Là, on a juste un enduit à faire.
Et au fait, combien ça coûte?
Bon, ce qu'on dit, c'est qu'une maison écologique, c'est environ 20% plus cher. Mais c'est même pas un bon débat. C'est pas une maison jetable, c'est pas une maison... c'est une maison saine.
Sans compter qu'après, il y a les économies d'énergie qu'on réalise au cours de l'habitat.
Ouais. Oui, il y a les économies d'énergie qui sont énormes. Là, on est vraiment dans une démarche quasi expérimentale, en tout cas, qui à la fois utilise des matériaux écologiques, mais en plus des techniques bioclimatiques.
Comment on fait, Étienne Gentil, pour passer des mathématiques à la bâtisse bioclimatique?
Bon, là, c'est une question très espiègle.
Il n'a pas répondu à cette question, le bougre. Mais je sens qu'au fond, l'esprit de ce bâtisseur est régenté par un tempérament fortement engagé. Je me trompe?
Je suis militant pour une forme de travail et de vie qui soit toujours en relation avec l'autre. Je fais aucun crédit aux fournisseurs pour ne pas rentrer dans un système que je pense pernicieux. Et je suis au crédit coopératif et à la nef. J'ai deux véhicules dans l'entreprise, un petit camion électrique et une mobylette électrique.
Que vous chargez au nucléaire?
Ah non, jamais. Non, par Enercoop, la coopérative d'électricité d'énergie renouvelable.
Ce que je remarque aussi, c'est que l'odeur est très très agréable. Ça prend pas les sinus comme sur un chantier classique, mais ça sent vraiment bon le foin.
Là, c'est le tracteur, donc en fait... On mélange pas avec des bétonnières parce que les bétonnières sont inappropriées aux chanvres. On a un malaxeur qui est un ancien mélangeur à grains agricole couplé à un tracteur agricole Massey Ferguson.
On est vraiment dans les champs.
Exactement.
Là, on voit effectivement le moulin à grains qui mélange le chanvre et la chaux.
N'empêche que là, on a une mécanisation qui est minimale et ça marche très bien. Et on déverse avec des brouettes et on aura mis 10 jours de travail pour bencher les 150 mètres carrés de la maison. Il faut savoir comment fonctionne la chaux. Donc ça demande un minimum de savoir-faire, mais tous les ouvriers seront obligés de l'avoir. Ils peuvent éventuellement l'acquérir s'ils le veulent ou de toute façon participer à la construction. Le béton de chanvre, c'est pas du béton de ciment. Il faut quand même, à chaque sortie de bétonnière, vérifier sa texture, être toujours vigilant. La construction bois, c'est pareil, il faut savoir-faire. C'est pas un mal de demander du savoir-faire.
En fait, du savoir-faire et du savoir-être pour faire cette maison.
Voilà, c'est ça.
Tu as l'habitude de travailler sur des chantiers comme ça?
Alors moi déjà je suis un stagiaire du CGM Armoise et là je viens de découvrir ce métier qui est pas mal et j'ai appris beaucoup de choses et ça me plaît. Même si c'est un peu physique mais c'est solide, c'est hyper solide. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de matières chimiques, etc. Donc, c'est naturel. C'est vraiment naturel, c'est bien pour la santé, etc. Donc.
Quand tu rentres chez toi le soir, tu te sens comment?
Bah, très bien, très bien.
Fier un peu, non?
Bah, oui, normal.
C'était un reportage de Valiamage. Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, extrait à présent du dernier album d'Émilie Loiseau.
My mother ground, my father wept into the dangerous world I left. Helpless, naked, piping loud, like a fiend hid in a cloud. Struggling in my father's hands, driving against my swaddling bands. Bound and weary, I thought best to sulk upon my mother's breast. Dans les bras de mon père, je repousse mélange de colère. Prise au piège, je préfère bouder le sein de ma mère.
Émilie Loiseau en concert à Loupian le 1er décembre prochain. Dans l'émission L'eau à la bouche, il est à présent question de prévention des déchets avec Mathieu Tellen.
L'émission L'eau à la bouche avait rendez-vous du côté de Saint-Jean-de-Védas pour discuter de la prévention des déchets, tout cela autour d'une journée d'échange régional organisée par le réseau Graines LR. Pour en discuter de cette journée de prévention des déchets, eh bien, je suis avec Vincent Legal, qui est animateur de réseau au sein de Graines LR. Graines LR, tout cela, ça cache le groupe régional Animation, Initiation, Nature, Environnement du Languedoc-Roussillon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer ensemble cette journée prévention déchets qui était ouverte aux acteurs d'éducation à l'environnement sur la région Languedoc-Roussillon, sur cette journée d'échange, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ce qu'est le Graines LR ?
Oui, le Graines LR est le réseau régional d'éducation à l'environnement. Donc qui regroupe divers acteurs qui mènent des actions en éducation à l'environnement sur diverses thématiques, de différentes manières différentes, différentes approches pédagogiques différentes. Au Graines, on a un centre de ressources à disposition des adhérents et on anime des réseaux thématiques et on propose un programme de formation. En Languedoc-Roussillon, il y a une particularité, c'est l'existence de réseaux à échelle départementale, des réseaux départementaux d'éducation à l'environnement. C'est la seule région en France où il y en a un par département. Donc, il y a le Réel 48 en Lozère, Coopère 34 dans l'Hérault, MNRN 30 dans le Gard, Géode dans l'Aude et la Tram 66 qui est en construction dans les PO. Donc, ça permet vraiment une richesse sur le territoire, d'être vraiment en lien avec les acteurs de terrain, qu'ils soient à une échelle régionale. C'est très, très enrichissant, cette échelle départementale. Et on travaille de lien avec les animateurs de réseau. On est une bonne quinzaine d'animateurs de réseau en éducation et l'environnement sur la région.
Alors, pour le public qui s'intéresse un petit peu à tout ce qui est nature, qui va se balader dans l'arrière-pays héraulté, pour ce qui est du département de l'Hérault, on a tous été amenés à être confrontés ou pas à des sorties menées par des associations qui travaillent dans l'environnement, dans la nature. Et autour de tout ça, bien, il gravite forcément comment apprendre, comment initier, comment faire découvrir la nature. Donc là, on parle d'éducation à l'environnement. Et tu le disais, à l'échelle départementale, les gens de ces associations sont fédérés en associations ou en réseaux départementaux. Et le GRENER, lui, a plutôt vocation à être à une échelle interdépartementale. C'est plutôt à l'échelon de la région.
Voilà. Et à un échelon national, il y a le réseau École et Nature qui s'est créé, pour faire un petit historique pour bien voir, dans les années 80. Les graines, les différents réseaux régionaux à travers la France, c'est plutôt dans les années 90, et l'échelle départementale, c'est plutôt dans les années 2000. Mais il n'y a pas de lien, il y a des liens d'horizontalité, hein. Il n'y a pas une fédération, une tête, le réseau national et en haut de la pyramide, c'est vraiment une horizontalité, hein. C'est le principe de la mise en réseau d'éducation, c'est une valeur forte associative qu'on met en avant. Et autrement, pour le lien avec le public, c'est ça. Comment ils rentrent en relation, c'est un peu ça, si je reformule votre question.
C'est à la fois de comprendre, on comprend qu'il y a une architecture des différents réseaux, que vous, votre échelon, domaine de travail, c'est plutôt, on va dire, la région Languedoc-Roussillon. Et oui, c'était de savoir comment est-ce que vous vous articulez, en fait, quelles sont vos actions? Est-ce que vous êtes uniquement quelqu'un qui va coordonner différentes actions qui se font dans différents départements, ou bien est-ce que vous êtes en complément de ce qui se fait dans chaque département? Voilà, un petit peu d'éclaircissement sur le rôle de chacun.
Oui, on est une structure associative, mais je ne suis pas éducateur à l'environnement. Je suis animateur de réseau, et donc je ne fais pas des actions grand public, des animations scolaires. Je regroupe plutôt ces acteurs sur des journées d'échange, comme c'est le cas aujourd'hui, on l'abordera tout à l'heure, mais sur des temps d'échange, sur les méthodes, sur les ressources, sur les supports d'action, les retours d'expérience, parce que c'est vraiment enrichissant, là, tous ces retours d'expérience. Et nous, on essaye de développer, en fait. On a 5 axes d'action. On a un axe d'action en tant que réseau d'être de la représentation politique auprès des pouvoirs publics, de se regrouper. Donc de siéger à certains conseils économiques et sociaux. Le GRENER a une place depuis quelques temps. Donc il y a différentes représentations politiques avec les agences de l'eau, avec nos grands partenaires Éducation nationale. Il y a une convention cadre régionale d'ailleurs qui est avec 13 signataires. On organise des assises notamment cet automne. Et on a un axe de dispositifs ressources pédagogiques et dispositifs pédagogiques, donc notamment certaines actions telles que le LIFE. Peut-être des auditeurs ont vu passer sur le littoral un camion qui s'appelle l'AOCEL, qui est un camion pédagogique avec un financement LIFE, un projet européen pour sensibiliser les touristes et les locaux, hein, également sur des temps de loisirs. Donc voilà, et on fait intervenir des acteurs du réseau, en fait. Donc voilà, des dispositifs pédagogiques qui sont mis en place par les réseaux. Un autre axe, le troisième axe, sur la professionnalisation, donc tout ce qui est programme de formation, tout ce qui est sur de l'accompagnement pour mettre en place ces actions sur un territoire, s'implanter sur un territoire. On est vraiment là, on soutient les acteurs, donc cet axe d'accompagnement. Et un quatrième axe qui est sur la communication, visibilité des acteurs. Et le dernier axe qui est notre vie associative, graine, tout ce qui est vie des adhérents, AG. Donc c'est le cinquième axe pour vraiment visualiser les actions du graine.
Alors on l'aura compris, vous n'êtes pas là pour faire le travail des autres, vous êtes juste là pour compléter et puis aussi peut-être permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître, partager leurs compétences, leurs connaissances et du coup être plus présent aussi sur un territoire et puis du coup plus facilement rencontrer les publics. Donc aujourd'hui, fin octobre, eh bien, a été proposée une journée d'échange régional sur la prévention des déchets. Quels étaient les objectifs ou finalités de cette journée ?
À l'origine, cette journée fait suite à 3 jours de formation dans le cadre d'un dispositif national du réseau École et Nature, sur 3 jours liés à une malle pédagogique, Roule-Taboule, les ateliers de Roule-Taboule, et en lien avec les formatrices de l'APIO, Aurélie Doumergue de l'APIO, et également Sophie Drocourt de la MNE, qui anime à l'échelle départementale depuis quelques années un réseau prévention déchets dans le Gard. On a souhaité proposer une journée d'échange pour regrouper ceux qui avaient participé à cette formation et ceux qui font des actions également tout au long de l'année avec des scolaires, avec des centres de loisirs, auprès du grand public, des professionnels également et des collectivités. Donc on a un public assez mixte d'éducateurs à l'environnement de nos associations, des ambassadeurs du tri, de collectivités, des chargés de mission pour mettre en place des programmes locaux de prévention déchets. Donc c'est un public mixte qui on n'a pas d'enseignants aujourd'hui, mais c'est possible sur nos journées que des enseignants donc voilà, on est mardi, c'est plus facile le mercredi, mais on essaye souvent de se lier. On a même un service éducatif aux graines, donc on est vraiment connecté également avec l'éducation nationale, et donc tous ces acteurs échangent sur la journée. Je liste un peu le programme de cette journée-là. Donc on a voulu faire en cibler cette matinée sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, donc tout ce qui est électrique, téléphone portable, machine à laver, frigo. On a fait intervenir l'éco-organisme écologique qui s'occupe de la filière de gestion, un peu comme éco-emballage pour les emballages. C'est très spécifique là, un D3E, mais on a voulu faire un petit apport de la filière pour connaître cette nouvelle filière, pour que les acteurs connaissent un peu cette filière, pour pouvoir après voir les potentiels pédagogiques, comment amener, sensibiliser, quelle approche, quel outil. Et donc en deuxième partie de matinée, justement, on a échangé sur les ressources. On a proposé un forum de ressources documentaires, des malles pédagogiques existants sur les différents thèmes de la prévention des déchets, que ce soit le compostage, que ce soit les filières de gestion par matériaux, que ce soit tout ce qui est réutilisation, le réemploi, la récup, les effets sur l'environnement et sur la santé et également des déchets. Donc on a diverses ressources que les diverses structures ont amenées, que le GREN, la PIEU, la MNO ont amené leur stock avec leur centre de ressources, et on a échangé là-dessus. Et donc là, il y a le petit temps, la petite pause de midi. Là, on va tout le petit monde est en train de manger là, un buffet participatif, et on repart cet après-midi sur 3 ateliers en parallèle. Donc un atelier sur les D3E comme ce matin, mais sur le lien avec la chaîne alimentaire, proposé par Christelina Fernandez du Monde de Jade. Et donc voir après cette matinée où on a vu la filière, comment on peut aller plus loin, sensibiliser avec tel ou tel public. Donc un atelier de mise en situation où on va pouvoir construire aussi, voir les évolutions sur cette thématique. Une autre thématique qui est la récup avec Aurélie Doumergue de l'APIEU, là sur tout ce qui est réemploi de déchets, utiliser des déchets en tant que matière première pour créer. Et là, laisser libre cours à l'imaginaire, donc une approche assez accessible pour du jeune public également, et qui permet de créer, d'être un bon support pour sensibiliser également. Et un troisième atelier qui est le lombricompost par Françoise Orliac de Gaïa, de l'association Gaïa, sur un type de compostage qui est le lombricompostage, et voir un peu qui peuple ces petits vers, cette petite faune qui nous est très utile pour dégrader ces matières organiques. Donc voilà cette mise en situation, et une petite dernière plénière en fait à la fin de journée. On va partir de l'exemple du SMICTOM de l'agglo de Carcassonne sur la mise en place de leur programme local de prévention déchets, et voir comment ils sont en train de mettre en place un dispositif pédagogique en lien avec Géode, le réseau de l'Aude, justement, pour mettre en place des actions, travailler sur des outils. Et il va nous raconter tout ça, et on va partir sur les actions de chacun des participants de cette journée, mettre en place sur leur territoire, en lien avec la semaine de réduction européenne de réduction des déchets, qui est dans 3 semaines, à la mi-novembre. Et donc en lien avec ça, et des actions tout au long de l'année sur les programmes locaux de prévention des déchets. Donc voir les actions sur les différents territoires en Languedoc-Roussillon.
Lorsque l'on parle prévention déchets, ce sont des termes très thématiques, on est dans la généralité. De manière concrète, la prévention des déchets, ça va tourner autour de quel type d'action ? Tu en as déjà évoqué quelques-unes là, par le biais du programme de cette journée, mais quand on parle de prévention de déchets, moi j'entends plus ou moins qu'on va essayer de voir quelle deuxième vie on peut donner à nos déchets, ou bien de quelle manière on peut s'y prendre pour économiser bien ces volumes de déchets que l'on accumule.
Il y a plusieurs axes pour la prévention déchets. Donc, on peut faire des actions concrètes sur plusieurs étapes, en fait. Avant, le slogan type, c'est le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Donc déjà, avant d'arriver au dernier stade ultime d'avoir un déchet, il faut faire de la prévention pour limiter le tonnage des déchets. Donc il y a l'éco-conception des produits, les industriels qui commencent, certains depuis quelques années même d'ailleurs, à mettre en place, à réduire le volume de leur emballage, le poids de leur contenant, différentes. Voilà, l'ADEME notamment soutient ces démarches-là pour les entreprises. Après, c'est quand on achète aussi, c'est faire le tri dès l'achat. Pas forcément faire le tri des déchets, c'est bien le tri des déchets, mais le tri dès l'achat, c'est-à-dire de choisir ces produits qui sont moins suremballés. Je sais, des fois, c'est difficile parce que justement, on achète ce qu'on propose. Donc, une action concrète, par exemple, qui sont réalisées pendant des semaines de réduction de déchets, c'est le désemballage aux caisses des supermarchés. Des associations font ce désemballage et on peut faire des ateliers justement avec ces emballages. Donc, il y a également le réemploi. Qui est au lieu de, par exemple, le papier qu'on utilise en verso, l'utiliser en feuille pour le coloriage, se faire des carnets de prise de notes, essayer d'éviter aussi d'imprimer, donc limiter l'impression, ces petits gestes du réemploi. Il y a la réutilisation, par exemple, au lieu, là, le buffet, le pique-nique, c'est de la vaisselle en dur, des assiettes et des gobelets, des éco-cups, des gobelets réutilisables, ce qui est facilement utilisable sur des événementiels. Donc, en fait, éviter à tout prix le tout jetable. C'est essayer de repenser sa consommation de ces dernières années qui nous ont amenés à aller vers de plus en plus de jetables. On en est arrivé jusqu'à des téléphones portables jetables, des DVD jetables. Donc, essayer de voir... comment trouver des alternatives qui existaient déjà, mais comment les mettre en place, faciliter leur mise en place, et chacun est amené, donc la sensibilisation aux éco-gestes, à faire attention, et au final, après la prévention, de faire le tri, de mettre dans la bonne poubelle. Donc maintenant, la plupart des gens, c'est vrai, se sont mis au tri avec les poubelles jaunes, le vert, depuis plusieurs années déjà, et au final, les ordures ménagères qui sont pour le coup incinérées et enfouies. Donc essayer de limiter ce tonnage des énergies, des déchets qui suscitent beaucoup de transport, beaucoup d'énergie, donc beaucoup et des pollutions également. Et donc un tri qui est très particulier, c'est le compost aussi, que chacun peut faire quand on a un jardin. En immeuble, on peut faire également du compostage collectif. Donc ça, c'est des actions concrètes. Vous me demandiez des actions concrètes. Ça peut être du compostage collectif au pied des immeubles. Donc se mettre lié avec des jardins collectifs, c'est parfait parce que quand on a que des déchets de cuisine, on a des déchets trop azotés. Et quand on n'a que des déchets de jardin, on a des déchets trop de carbone. Et donc, il faut les deux dans un compost. Et donc, de lier un habitat collectif avec des jardins collectifs, ça permet d'avoir en plus une quantité de compost qui facilite la montée en température, la dégradation, la petite vie de cette faune, là, des vers, des micro-organismes qui dégradent toute cette matière organique. Et ça évite les transports aussi de le faire en traitement local. Donc voilà, des actions qui sont des supports pédagogiques pour nos acteurs, qui sont vraiment une richesse, le compost, voir les petites bêtes. Ça peut parler déchets, alimentation, consommation, énergie. Donc vraiment, c'est une thématique déchets qui regroupe un panel d'autres thématiques pour aller plus loin, pour parler d'enjeux environnementaux actuels, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle globale, et ça peut être notamment dans le cadre de vie, la vie de quartier. Et donc c'est une accroche très intéressante pour divers publics. Léger sur l'environnement.
Alors je rebondis sur une de tes paroles qui est où tu as dit que la prévention des déchets, les déchets on va dire en général, allait être un des enjeux de plus en plus forts dans les années à venir. J'avais envie, c'est une dernière question, de savoir si pour toi c'était plutôt un sentiment qui venait d'une prise de conscience du public, c'est-à-dire qui en fait la demande, qui dit voilà, moi je veux qu'on gère les déchets parce que j'accepte pas qu'on jette comme ça en pleine nature ou qu'on vienne polluer les sites, ou bien est-ce que c'est un enjeu qui devient de plus en plus fort du fait de la prise de conscience du coût que ça représente pour les collectivités territoriales, je veux dire. Ouais, peut-être que c'est les deux, mais de savoir si c'est sur cette thématique de la prévention des déchets et des déchets en général, qui pousse le plus ? Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est plutôt ceux qui doivent s'en occuper et qui sont dans un cadre légal, qui les contraignent et qui voient le coût que ça représente et qui se disent qu'on a peut-être intérêt à diminuer certains volumes ?
Mais il y a un peu des deux, il y a un peu de tout ça. Il y a la pression de la société civile sur les effets, sur les polluants. On voit notamment sur ces produits-là, déchets électroniques, électriques, et sur les ampoules, les piles, et même tout ce qui est déchets avec des polluants, des PCB, des métaux lourds, donc à dépolluer. Si on les met en incinérateur classique ou si on les met en centre d'enfouissement technique, donc en... classique, ça engendre des pollutions qui n'étaient pas acceptables. Donc c'est vrai qu'il y a la société civile qui a poussé, il y a la législation même européenne qui a été revue par des circulaires françaises qui ont même été au-delà de certains seuils européens. Donc il y a ce coup de pouce là. Les collectivités ont eu un coût, mais c'est un coût très élevé pour eux. Mais ils ont justement des possibilités de financement, notamment avec les éco-organismes pour gérer les D3E. Ils ont des soutiens financiers, mais c'est une implication. Il n'y a pas d'obligation dans les déchetteries d'avoir un point de collecte des D3E. Peut-être dans quelques années, ça viendra, mais pour l'instant, c'est plutôt une démarche volontaire d'être adhérent à tel éco-organisme. Il y a également en magasin, le 1 pour 1. On va acheter un sèche-cheveux et notre sèche-cheveux cassé, on le ramène. Donc là, il y a une obligation légale. Le 1 pour 0, où on fait des bornes dans les magasins pour ramener son produit cassé, c'est en course. Il n'y a pas d'obligation. Il y a certains magasins qui le font en démarche volontaire. Donc il y a cette obligation légale, mais il y a aussi une volonté d'aller plus loin. Et souvent, là, il y a la volonté, il y a un peu des deux. Des fois, c'est une contrainte. Des fois, c'est plutôt d'aller de l'avant, d'aller plus loin parce qu'on tolère pas ces pollutions. Et on voit que ces produits-là, ils ont un impact sur la santé humaine. Donc, en plus d'avoir un impact sur l'environnement, c'est aussi une question de santé humaine. L'état de nos rivières, la couche, les gaz à effet de serre dans les frigos. Il y a des législations pour éviter tel ou tel produit. Et donc, ça avance. C'est la société civile et c'est le législateur et les collectivités en partenariat. Au milieu de les collectivités locales qui ont la compétence déchets, donc et qui d'ailleurs aujourd'hui plusieurs sont présentes et travaillent aussi sur ces questions de pédagogie de plus en plus et de sensibilisation et pas seulement juste de la communication, parce qu'on est passé le temps le communiquer sur ce déchet on le met dans cette poubelle et celui-là on le met dans celle-là. On va plus loin, on sensibilise, comme on l'expliquait tout à l'heure, toutes les thématiques liées aux déchets, on tire une ficelle et on arrive sur différentes thématiques.
Très bien, je te remercie Vincent et bonne continuation dans la poursuite de cette journée d'échange.
Merci beaucoup, au revoir.
C'était Vincent Le Gall, animateur du réseau Graines-LR au micro de Mathieu Thélène dans l'émission L'eau à la bouche proposée par Radio Pays d'Hérault et diffusée sur Radio Clapas, Divergence FM et Radio Larzac.
Chapel was built in the mist where I used to play on the green. Oh,
Régulièrement, des oiseaux se posent sur les lignes électriques. Le problème, c'est que parfois, ils meurent électrocutés. Et quand en plus, il s'agit d'espèces en voie de disparition comme l'aigle de Bonelli, associations environnementales, représentants de l'État et ERDF se mobilisent. L'idée est simple, sécuriser les poteaux électriques pour éviter les électrocutions. Reportage près de Clermont-l'Hérault, à Nébian, lors d'une opération de mise en sécurité des lignes électriques.
Bonjour, je m'appelle Laurent Roux, je travaille à ERDF. Au niveau du Languedoc-Roussillon, je suis le responsable et le coordonnateur de l'activité à Vifone de neutralisation des réseaux HTA.
Alors présentez-nous là le chantier à l'heure actuelle. Nous sommes au pied d'un pylône sur la commune de Nébian.
Voilà, tout à fait. On est en train d'intervenir sur ce qu'on appelle un interrupteur aérien qui permet de tronçonner le réseau 20 000 volts. Et dans ce cadre-là, on effectue une opération de maintenance et de neutralisation du réseau du point de vue avifone.
Précisément, en quoi consiste ce travail ?
Ce travail consiste à déposer l'appareil existant, à mettre en place un appareil, on va dire, de nouvelle génération et à mettre en place un perchoir permettant ainsi aux oiseaux de se poser sur le perchoir et de ce fait ne pas s'électrocuter sur le réseau existant.
Alors dans quel but ERDF réalise ses travaux ?
En fait, ERDF réalise ses travaux dans le cadre de la charte régionale qui a été signée avec les différents interlocuteurs qui sont l'Adréal et les différentes associations ornithologiques du Languedoc-Roussillon. Des zones d'études ont été identifiées. Certains points du réseau ont été prévus en neutralisation. Et nous intervenons ici dans le cadre de la ZPS du Salagou, sur un point dans la zone de protection spéciale du Salagou, sur un point identifié par l'étude ornithologique.
Mais donc ma question c'était, dans quel but, autrement dit, vous le faites pour éviter que les oiseaux se tuent, mais est-ce aussi pour éviter de créer des coupures électriques ?
C'est un petit peu les deux. C'est tout d'abord, on va dire, dans le cadre de la fiabilisation du réseau, c'est-à-dire éviter d'avoir des coupures, on va dire, longues, des coupures brèves aussi liées à l'électrocution, par exemple, d'un oiseau. Mais aussi, c'est bon pour préserver la biodiversité et maintenir, on va dire, un niveau de population importante, notamment ici pour l'aigle de Bonelli.
N'est-ce pas plus judicieux d'enterrer tout simplement le réseau électrique plutôt que de le sécuriser ?
Alors il faut savoir qu'en Languedoc-Roussillon, on compte 40% du réseau qui est en souterrain, mais il reste quand même une grande partie du réseau en aérien. Le coût du réseau souterrain est très élevé et donc il serait déraisonnable de penser de pouvoir tout enterrer. Il faut savoir malgré tout que le réseau qui est construit actuellement est construit à 95% en souterrain. Il ne se construit pratiquement plus de réseau aérien. Par contre, on a toujours la maintenance à réaliser sur le réseau aérien et au fur et à mesure des années, le réseau va petit à petit être enterré.
Comment vous déterminez les poteaux électriques dangereux pour les oiseaux ?
Alors les poteaux font l'objet d'une étude par des ornithologues, donc des spécialistes de la avifone. Ils déterminent tout d'abord la dangerosité du support, c'est-à-dire la structure technique du support, l'armement. Donc à partir d'un certain type d'armement, on peut déterminer qu'il est plus ou moins dangereux du point de vue de la avifone. Et par aussi par le milieu, on va dire l'emplacement de ce support par rapport au milieu environnant, par rapport au terrain de chasse et à l'exposition des vents, etc., etc.
Alors vous allez sécuriser combien de lignes et poteaux électriques en Languedoc-Roussillon et si possible aussi dans l'Hérault ?
Alors en Languedoc-Roussillon, on va sécuriser cette année aux alentours de 160 supports. et dans l'Hérault, on aura sécurisé cette année 92 supports. Donc on voit bien que c'est quand même dans l'Hérault où il y a une opération importante qui est liée à la sauvegarde de l'aigle de Bonelli. Donc la ZPS, donc la zone de protection spéciale du Salagou et la zone de Bessan aussi est identifiée comme point très prioritaire pour la conservation de cette espèce.
Un mot sur l'aspect technique, combien d'agents de RDF sont mobilisés pour chaque intervention?
Alors pour cette intervention, vous avez 5 agents qui font partie d'une équipe de travaux. Ces équipes de travaux sont rassemblées sur 4 bases sur le Languedoc-Roussillon et vous avez actuellement 7 équipes qui travaillent toute l'année pour la maintenance du réseau et par conséquent de temps en temps pour la maintenance, pour la neutralisation des réseaux dans le cadre de la vie froide.
Combien coûte ce genre d'intervention?
Alors l'intervention aujourd'hui coûte 2 500 €. Une partie est liée à la main d'œuvre et une autre partie est liée au matériel.
Vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet, le projet?
Ben, disons que ERDF Languedoc-Roussillon s'est engagé dans une démarche environnementale forte. Nous avons depuis 3 ans multiplié par 3 le volume de nos investissements dans le cadre de ce programme de neutralisation et nous espérons ainsi continuer et améliorer un petit peu ce niveau tout au long des années à venir pour préserver la biodiversité.
Un budget qui s'élève à combien alors?
Alors chaque année nous avons en moyenne 150 000 € d'investissement uniquement pour la neutralisation des réseaux dans le cadre du programme Avifraude.
Merci beaucoup.
Ben, je vous remercie.
Parce que les deux personnes en haut travaillent dos à dos aussi. Donc on ne peut pas travailler n'importe comment. Donc c'est prêt, monter, présenter et accrocher. Voilà. Donc, tout se fait par phase. Et c'est le chargé de travaux qui commande toutes les opérations en bas.
Bonjour, moi c'est Patrick Boudarel, donc je suis chargé de mission à la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement de Languedoc-Roussillon, et je suis en charge des plans nationaux d'action espèces menacées, dont en particulier le plan d'action Bonelli et puis d'autres espèces de rapaces qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de l'opération de neutralisation de lignes électriques.
Alors pourquoi préserver l'aigle de Bonelli? C'est vrai que c'est souvent lui la figure de proue.
Bah, tout simplement, c'est déjà l'espèce la plus menacée en France aujourd'hui. Pour un grand rapace comme ça, on a une population très faible en France, de 30 couples, dont 12 en Languedoc-Roussillon, 6 dans l'Hérault. Donc c'est très faible. Ça a été aussi plus faible. On est descendu à un moment jusqu'à 23 couples seulement, au début des années 2000. Depuis, on est remonté un petit peu, mais on est encore à seulement moins de la moitié de la population qu'on connaît historiquement, qui était présente en France. Donc, on a connu 80 couples, estimé à 80 couples dans le temps le plus ancien qu'on a pu recenser. Donc voilà, on est encore très loin d'un optimum pour cette population. Et c'est une espèce donc, qui fait l'objet d'efforts constants de protection, en particulier parce qu'elle est affectée de beaucoup de menaces. Elle a de nombreuses problématiques de mortalité. Mais la première, c'est les problèmes de lignes électriques, aussi bien chez les jeunes, chez les immatures, dans leur premier temps de vie, que chez les adultes reproducteurs sur des sites.
Alors quel a été le rôle des services de l'État, donc, que vous représentez, la DREAL en l'occurrence, pour la mise en place donc, de sécurisation de lignes et de poteaux électriques?
Alors je dois dire que notre rôle, il est quand même relativement récent au niveau de l'État, parce que il faut bien souligner qu'au départ, c'est des associations ornithologiques un peu partout en France qui ont attiré l'attention d'EDF à l'époque, maintenant devenu RDF, RTE, etc. Donc sur les dangers pour les oiseaux. Nous, on est intervenu récemment, et c'est encore une fois principalement à travers l'espèce avec de Bonelli. Parce que quand on fait le constat qu'il y a plus de la moitié des cas de mortalité connus qui sont liés à l'électrocution, on dit là, il y a une action forte à mener. Et donc, le fait qu'on soit intervenu aux côtés des associations, ça a permis de renforcer en fait la prise en compte par RDF qui a pris peut-être plus rapidement au sérieux l'enjeu que ça représentait pour la région et qui nous a permis d'aboutir aujourd'hui à une convention multipartite.
Et pourtant, on est bien d'accord, il n'y a pas que l'aigle de Bonelli qui est électrocuté sur une ligne électrique.
Non, pas du tout. Il y a de très nombreuses espèces qui sont susceptibles d'être électrocutées. Simplement, vu qu'il y a aussi des milliers de kilomètres qui appartiennent dans la région et avec des milliers de poteaux sans doute qui sont potentiellement dangereux, on ne peut pas agir partout. Et donc on a décidé de le faire en priorité sur les espèces qui étaient vraiment les plus impactées, en gros, par ces électrocutions. Donc le bonélise, c'est une évidence, on a des preuves scientifiques que si on équipe des lignes, on neutralise des secteurs, on gagne de l'espérance de vie et on gagne un renouvellement de possible dynamique de population. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur cette espèce. Mais cette espèce, elle a des vastes territoires, et quand on protège pour le bonélise, on protège pour plein d'autres espèces en même temps, en réalité.
Avez-vous un peu de recul pour voir si tout ce travail a un réel impact sur les espèces d'oiseaux, ce travail donc de mise en sécurité des lignes électriques ?
Alors ce que je disais, bon, il y a en particulier un travail qui a été fait avec le CEP-CNRS. On a analysé sur le bonélise pendant 20 ans la dynamique de population. Et on a vu qu'il y avait une amélioration de, notamment de la mortalité, qui est un peu moindre aujourd'hui. Et ce paramètre-là, il a pu être lié très directement avec des actions de neutralisation. Et donc c'est assez rare qu'on puisse faire un lien aussi flagrant, mais là, on a pu le prouver. Tout en montrant aussi que c'était encore insuffisant pour que l'espèce puisse se trouver dans une situation vraiment confortable.
Bérand Jérémy, je suis technicien au Centre ornithologique du Gard, qui est une des associations membres de Meridionalis, qui s'occupe des questions d'électrocution et de collision sur le réseau électrique en Languedoc-Roussillon.
Alors quel a été votre rôle pour voir aujourd'hui aboutir donc cette sécurisation de pylônes et lignes électriques à Nébian ?
Alors on travaille depuis de nombreuses années avec EDF, au départ c'était EDF, après c'est devenu ERDF, et à la sécurisation des pylônes, parce que c'est une vraie menace pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et donc en 2011 on a signé une charte régionale avec ERDF qui nous permet de planifier des travaux de sécurisation des lignes avec des travaux préalables de hiérarchisation des priorités par rapport aux espèces, les territoires. Et aujourd'hui, donc, on voit que le rythme des travaux s'accélère par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années encore.
C'est-à-dire ?
Depuis la fin des années 90, début 2000, il y a eu les premiers contacts avec EDF où on voyait ponctuellement sur certains territoires des poteaux équipés pour les oiseaux. Et aujourd'hui qu'on arrive qu'on a signé cette charte, EDF voit ça plutôt d'un bon œil, enfin ERDF, et met aussi eux des moyens supplémentaires par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Quoi. On en devait être à peu près 170 poteaux, je crois, sécurisés en 2012 sur toute la région, alors qu'avant on pouvait les compter quasiment sur les doigts d'une main. Quoi. Enfin peut-être pas, mais enfin, en tout cas ça a considérablement augmenté le rythme, cette charte.
Quelle est la garantie donc de mise en sécurité du poteau pour les oiseaux à travers ce travail ?
Ben, c'est des matériels qui ont fait un peu leur preuve, ils sont posés depuis de nombreuses années, ils ont été testés, etc. Et on a peu de retours sur les poteaux qui ont été équipés, où on voit encore des oiseaux qui s'électrocutent dessus. Donc on pense que c'est quand même des matériels qui sont assez fiables.
Mais les oiseaux peuvent se déplacer sur un autre poteau et le risque est le même.
Ben, en fait, il y a un travail préalable de hiérarchisation de ces poteaux. On ne fait pas ça par hasard. Il y a des études qui sont faites dans un premier temps par les ornithologues qui viennent sur le terrain, qui regardent où sont les poteaux, quel type de poteau, quelle attractivité de ce poteau, pourquoi ce poteau peut être dangereux. Les oiseaux cherchent des perchoirs dans des zones ouvertes, souvent qui sont riches en proies. Pour chasser, ils viennent se percher sur ces poteaux qui sont les plus dangereux. Si on dit que donc, le poteau est attractif pour l'oiseau et en plus il est dangereux, on le classe comme étant à haut risque et du coup on sécurise en premier ces poteaux. Voilà.
Et après vous revenez observer une nouvelle fois ou pas ?
Après on peut avoir des observations, non il n'y a pas de travail particulier de validation du travail qui a été fait. Ou pour vérification que ça a bien marché, mais on peut avoir des observations fortuites comme ça. C'est d'ailleurs la plupart du cas de retour d'électrocution qu'on a, c'est ça, c'est des gens qui se baladent, qui ne sont pas forcément ornithologues, qui nous signalent qu'ils ont trouvé un oiseau mort sous un poteau quelque part.
Alors ces mises en sécurité concernent toutes les espèces d'oiseaux ou alors vous en avez ciblé certaines ?
La logique qu'on a eue donc, au niveau régional, c'est de hiérarchiser les espèces, parce que sinon le travail serait énorme. Donc on s'est consacré aux espèces les plus menacées, celles qui étaient le plus touchées par le risque d'électrocution. Il y a 4 espèces, avec en premier l'aigle de Bonelli, le vautour percnoptère, le gypaète barbu et le vautour moine. Donc on travaille sur les territoires où ces espèces sont présentes. Mais quand on fait sécuriser un poteau pour un aigle de Bonelli, le Grand-Duc va aussi en profiter, le cercueil Jean Leblanc va en profiter, et même la buse qui vient se poser sur ce poteau en profitera également. Donc ça c'est le côté préventif. On travaille de façon préventive sur des territoires. Et après on travaille aussi avec ERDF sur l'aspect curatif, c'est-à-dire quand on constate un oiseau électrocuté sur un poteau, peu importe où il soit. Si c'est une espèce protégée, on demande systématiquement à ERDF de le protéger pour avancer aussi sur des espèces moins patrimoniales que l'aigle de Bonelli. Voilà, c'est un volet important de l'action qu'on mène aussi avec eux.
Et d'après vous, cette action, elle existe ailleurs en France ou elle est unique au Languedoc-Roussillon ?
Ah non, elle existe partout en France. Après, on a des interlocuteurs qui sont différents suivant les régions. Mais c'est une action qui se fait dans chaque région. Il y a d'ailleurs depuis quelques années un comité national avifaune qui rassemble les associations de protection de la nature, que sont FNE, France Nature Environnement et la LPO, qui se réunissent avec ERDF et RTE, qui sont les deux gestionnaires du réseau électrique en France, pour réfléchir au niveau national des actions à mener sur les territoires, des priorités, etc.
Un reportage réalisé sur la commune de Nébian, près de Clermont-l'Hérault, en Languedoc-Roussillon. 1500 points dangereux ont été recensés et 213 ont pour l'instant été traités. Ainsi s'achève l'émission L'eau à la bouche. Merci à vous de l'avoir écouté. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.